bonjour, bonsoir, bienvenue. Écarquez vos yeux et vos oreilles. Vous allez suivre une visite du Centre Pompidou.
Aujourd'hui, nous visitons l'exposition Brancusi en galerie 1 du Centre Pompidou, ouverte du 27 mars au 1er juillet 2024. Ariane Coulondre, commissaire de l'exposition, nous accompagne dans cette visite. Bonne écoute. Blancheur et clarté.
Il y a 120 ans, un jeune artiste roumain traversait l'Europe à pied pour venir s'installer à Paris. C'est au début du XXe siècle, dans la capitale française en pleine effervescence culturelle, que Constantin Brancusi invente une manière de sculpter radicalement nouvelle, un langage universel privilégiant la taille directe et les formes simples. L'exposition rétrospective embrasse toute la richesse de sa création, la sculpture, mais aussi la photographie, le film, le dessin, et invite à découvrir son parcours, les sources de son œuvre et les grands thèmes que l'artiste n'a cessé d'approfondir. Considéré comme le père de la sculpture moderne, Brancusi connaît une reconnaissance internationale et rapide. Nombre d'artistes et d'admirateurs se pressent dans son atelier, situé dans le 15e arrondissement de Paris, impasse Ronsin. Comme le raconte l'artiste Valentine Hugo,
« Ce jour-là, après avoir suivi une impasse bordée de garages importants, je suis arrivée dans un reste de jardin abandonné et j'ai trouvé la porte dans un charmant chemin de campagne tout bruissant de feuilles et d'oiseaux. Cela me paraissait d'autant plus surprenant que j'étais à peine à 50 mètres de l'enfer de la ville. La porte s'ouvrit après une légère attente et j'eus l'impression, annoncée par le son harmonieux et grave d'une cloche invisible, que j'entrais là comme un son balancé, car mon cœur battait très fort et je me trouvais soudain ébloui de clarté dans un lieu inconnu, immense et blanc, tout vibrant d'êtres inconnus. Un homme était devant moi, c'était Brancusi, tout vêtu de ce blanc de travail. Une barbe de la même couleur encadrait son visage régulier, où les yeux souriaient plus que la bouche. Tout était calme devant moi, au-dessus de moi, entre ces hauts murs blancs de chaux, vers le toit de verre au-dessus duquel le ciel de Paris projetait cette couleur de perle. Tout était calme. Les coqs blancs s'élançaient comme une gerbe de cris hérissés d'éclats.
Avant d'être un lieu, l'atelier du sculpteur est d'abord une émotion, un éblouissement. L'impression de blancheur et de clarté saisit les visiteurs de l'atelier, accueillis par les grands coqs en plâtre dressés vers le ciel, un motif que Brancusi a repris pendant 3 décennies. Symboliquement associé à la France, terre d'accueil de l'artiste, l'animal évoque aussi par son chant le lever du jour. La lumière est l'une des composantes de l'art de Brancusi, celle de son atelier, conçue comme une œuvre en soi, mais aussi celle reflétée par ses sculptures. Ses bronzes, patiemment polis, ont une surface lisse, réfléchissante comme un miroir. La muse endormie, fragment de tête couchée en équilibre sur la joue, suggère le rêve, la quiétude absolue détachée de toute contingence matérielle. Le fascinant visage est clos dans sa forme, un ovale parfait où les traits sont à peine esquissés. Mais il s'ouvre par le jeu des reflets à l'espace environnant, en intégrant l'image de celui ou de celle qui s'en approche.
Quand, pour la première fois, je vis le sculpteur Brancusi dans son atelier, je fus plus impressionné que par n'importe quelle cathédrale. J'étais sidéré par la blancheur et la clarté de la pièce. Entrer dans l'atelier de Brancusi, c'était pénétrer dans un autre monde. Man Ray.
Aux sources d'un nouveau langage.
Comment est né ce nouveau langage? De quel imaginaire? Comment Brancusi est-il devenu Brancusi? Né en 1876, dans un village paysan au pied des Carpates, le jeune Brancusi connaît une jeunesse mouvementée, mais son talent précoce lui ouvre les portes de l'École des arts et métiers de Craiova, puis de l'École des beaux-arts de Bucarest. Il arrive à l'âge de 28 ans à Paris, où il s'installe. Remarqué par le grand maître de la sculpture française, Auguste Rodin, il devient brièvement son assistant en 1907. Une œuvre comme Le Sommeil montre l'influence directe du maître. Très vite, le jeune sculpteur quitte Rodin et affirme sa propre voix. 3 œuvres majeures, La Prière, La Sagesse de la Terre et Le Baiser, marque une rupture totale.
André Avril, artiste plasticien.
C'est un moment important dans le travail de Brancusi, puisque à partir de 1907-1908, il abandonne le modelage et en quelque sorte, il se sépare de la relation qu'il a eue à ce moment-là avec Rodin aussi. Il s'attaque à la taille directe, c'est-à-dire qu'il s'attaque directement à la matière, au bois, à la pierre, sans aucune ébauche préalable, ce qui suppose quand même une certaine maîtrise du geste et puis une connaissance aussi de la matière. La relation avec Rodin, elle est intéressante parce que ces deux grands sculpteurs, évidemment, au début du XXe siècle, Rodin est un maître et considéré comme un maître, mais Rodin, c'est quelqu'un qui impose à la matière la forme qu'il veut lui donner. Ce qui est intéressant avec Brancusi, c'est que c'est un tout autre rapport à la sculpture. Pour Brancusi, l'artiste ne doit pas imposer à la matière une forme, mais c'est la matière elle-même et le matériau qui suggèrent à l'artiste les possibilités d'une forme.
C'est en taillant la pierre que l'on découvre l'esprit de la matière, sa propre mesure. La main pense et suit la pensée de la matière. Brancusi.
Le baiser taillé dans un bloc de calcaire rustique apparaît comme une déclaration d'indépendance. Contrairement au célèbre marbre de Rodin, présentant deux amants confortablement assis sur un rocher, la version de Brancusi fusionne les corps. Les amants, face contre face, deviennent le rocher. L'homme et la femme sont égaux dans l'étreinte. Leurs traits sont à peine esquissés. Une amande pour l'œil, un trait pour la bouche, ni nez ni oreille. Au geste de la taille s'ajoute celui du polissage, pour obtenir des lignes pures et des surfaces lisses. Ce nouveau langage vise à exprimer l'essence des êtres, au-delà des apparences.
La simplicité n'est pas la fin de l'art. On parvient à la simplicité malgré soi, par l'approche du sens réel des choses. La simplicité est la complexité elle-même, et on doit se nourrir de son essence pour comprendre sa valeur. Brancusi.
Le travail du bois.
Pendant ses études en Roumanie, Brancusi crée du mobilier et se forme lors d'un séjour à Vienne auprès d'un ébéniste. Au milieu des années 1910, il renoue avec le travail du bois qui fait écho à la tradition artisanale de sa région natale. L'encadrure de portes de son atelier, taillée en chêne, évoque la structure des portes de ferme traditionnelles roumaines. Brancusi crée aussi des tabourets et des fauteuils de bois massif pour son atelier. Il n'y a pas de séparation entre son art et sa vie. Ce mobilier se transforme parfois en socle pour ses sculptures, tandis que certaines œuvres, comme les coupes ou le vase, imitent la forme d'objets usuels.
Il faisait chaud, j'étais à côté du poêle, une masse monumentale blanche. C'était Brancusi qui l'avait fait très certainement. Brique par brique, il avait élevé ce cube au milieu de son atelier. Il l'avait passé à la chaux et le feu brûlait en ce moment. C'était cela l'odeur insolite, ces briques et cette chaux surchauffée. C'était l'odeur aigre-douce qu'ont certaines maisons de paysans. Je la reconnaissais. J'oubliais Paris et le sculpteur célèbre que j'étais venu voir. Je me trouvais dans une campagne très éloignée qui vivait près de la terre. Il avait fait de ses propres mains tous les objets qui l'entouraient. Son lit, un assemblage de planches en bois blanc, les tabourets, coupés dans des troncs d'arbres à peine dégrossis, la table basse et ronde, l'étagère sur laquelle était une radio, mais une radio déboîtée, la carcasse de lampe et de fil dehors. Dora Vallier.
Ces sculptures en bois, telles que le premier pas, la petite fille française ou cariatide, témoignent de son admiration pour la statuaire africaine, qu'il peut voir alors au musée d'ethnographie du Trocadéro. Comme de nombreux artistes de l'avant-garde, Brancusi est sensible à la spiritualité émanant de ses sculptures et à son vocabulaire de forme qui offre d'autres modèles, loin des conventions académiques. Ses œuvres partagent de nombreux traits communs avec la statuaire d'Afrique subsaharienne. Le refus du naturalisme, la proportion symbolique des différentes parties du corps, l'élongation du cou et du torse, le raccourci des jambes, la stylisation des détails, la symétrie, la frontalité et la musicalité rythmique des volumes.
Le génie de Brancusi tient au fait qu'il a su où chercher la véritable source des formes qu'il se sentait capable de créer. Au lieu de reproduire les univers plastiques de l'art populaire roumain ou africain, il s'est appliqué, pour ainsi dire, à intérioriser sa propre expérience vitale. Autrement dit, Brancusi a réussi à voir le monde comme les auteurs des chefs-d'œuvre préhistoriques, ethnologiques ou folkloriques. Mircea Eliade.
Tout en se rattachant à des traditions ancestrales et populaires, Brancusi s'enthousiasme également pour les formes aérodynamiques de l'aviation. Il visite le salon de la locomotion aérienne au Grand Palais en compagnie de ses amis Fernand Léger et Marcel Duchamp. Ce dernier lui aurait lancé.
Qui fera mieux que cette hélice ? Dis, tu peux faire ça ?
Ligne de vie.
De la Roumanie du dernier quart du XIXe siècle au Paris de l'après-Seconde Guerre mondiale, le parcours de Constantin Brancusi a quelque chose de prodigieux. Les archives qu'il a conservées scrupuleusement, plus de 10 000 lettres, agendas, livres, articles, constituent une mine d'or pour comprendre sa place centrale au sein des avant-gardes modernes. Soutenu par les cercles et mécènes roumains dès son arrivée en France, Brancusi fréquente le tout Paris bohème, regroupé autour de Montparnasse. Faire le récit de sa vie, c'est tenir la chronique de ses amitiés avec nombre d'artistes et auteurs, à commencer par Marcel Duchamp ou Henri-Pierre Rocher, qui promeuvent très tôt l'œuvre de Brancusi aux États-Unis, mais aussi Fernand Léger, Man Ray, Amedeo Modigliani, Blaise Cendrars ou James Joyce, dont il fait le portrait.
Brancusi est mort dans l'oasis de l'impasse Ronsin, déplumé de ses ateliers. Dans cette cité d'artistes, passe sur patte, jadis de rue, devenue par lui fameuse, il a vécu près d'un demi-siècle comme un paysan dans sa ferme, vêtu le plus souvent d'une combinaison blanche d'aviateur, allant lui-même faire son marché, riant avec les marchandes, petit, ascète et bon vivant, grimpant doucement de la pauvreté à l'aisance tardive. Il avait deux médecins, un classique et un pas classique, deux régimes et deux réfrigérateurs, avec deux stocks rivaux de nourriture, un pour lui et un pour ses amis, et il faisait des expériences personnelles. Il aimait le moum demi-sec et aussi le whisky avec beaucoup d'eau de vitel et un peu de miel. Il parlait un argot à lui. « Allez, vache !» ça voulait dire « sapristi !»« Oui, » a-t-il toujours dit, « amenez des amis, des gens à qui ça fait plaisir, simple ou drôle, ou des femmes belles. Pas de critique d'art ni de marchand. Et si vous voulez rester amis, n'écrivez rien sur moi tant que je vis. » Henri-Pierre Rocher.
Son parcours est jalonné d'événements, de débats et de scandales depuis sa participation à l'exposition de l'Armory Show à New York en 1913. Ce parcours témoigne de la dimension internationale de l'artiste et de ses séjours en Roumanie, aux États-Unis ou en Inde. L'atelier est un lieu mythique par sa réputation, lieu de fête, de musique, de danse, où affluent d'innombrables visiteurs et admirateurs. Lysica Codreanu danse en 1922 sur les gymnopédies de son ami Eric Satie, dans un costume créé par Brancusi. Plus tard, sa jeune amie américaine, Florence Meyer, est filmée dansant sur un socle parmi les sculptures. Fin mélomane, Brancusi possède une grande collection de disques qui reflètent ses goûts éclectiques et sa curiosité pour l'ailleurs. Plus que de la musique classique, on y trouve du flamenco, du jazz afro-américain, des chansons folkloriques roumaines et également des musiques traditionnelles d'Amérique latine, d'Asie ou d'Afrique.
L'atelier.
L'atelier de Brancusi ressemble à un paysage de préhistoire. Des troncs d'arbres, des blocs de pierre, un four où le maître de maison, homme primitif, grille les viandes au bout d'une pointe de fer. Aux quatre coins, le brontosaure a déposé des œufs et des statues miroitantes attirent les belles américaines comme des oiseaux.
C'est ainsi que Jean Cocteau décrit l'atelier de Brancusi.
André Avril.
L'atelier est pensé par Brancusi dans sa totalité. Et il ne fait pas de différence entre une sculpture, un socle, du mobilier. Tout ça rentre à l'intérieur d'un univers qu'il a créé, où justement l'art et la vie sont totalement indissociables. n'y a pas de hiérarchie, on pourrait dire, à l'intérieur des différents éléments qui construisent la totalité de l'atelier. Chacun a une place et chacun se déploie dans une mise en relation avec tout le reste.
L'atelier de Brancusi est situé dès 1916 dans l'impasse Roncin, une ruelle calme regroupant une trentaine d'ateliers d'artistes, parmi lesquels, dans les années 50, se trouvent ceux de Max Ernst, d'Ella Lanne, d'Eva Epli et de Jean Tinguely. L'atelier de Brancusi est à la fois le musée de sa création et une œuvre en soi. Tout ou presque naît de la main de l'artiste. La cheminée, les tables, les tabourets, les haut-parleurs qu'il encastre dans des blocs de pierre. La révolution portée par Brancusi est d'abord une révolution du geste. Ses formes si pures naissent dans la poussière de plâtre et de marbre, dans un engagement physique face à la matière. La technique a une importance pour l'artiste, qui se met en scène au travail, dans ses films et photographies.
À certains moments, il a même carrément théâtralisé le rapport des sculptures à l'intérieur de l'atelier. C'est-à-dire qu'il savait très très bien que la lumière, le matin, à telle saison, arrivait à tel endroit, à tel moment. Donc il pouvait très bien déplacer une sculpture en bronze de façon à ce qu'elle soit éclairée et qu'un éclat de lumière d'un seul coup apparaisse à l'intérieur de l'espace de l'atelier. Je crois qu'il faisait ça d'ailleurs très souvent avec les visiteurs qui venaient le voir, puisque à la fin de sa vie, Brancusi refusait d'exposer. Il considérait que l'atelier était l'espace privilégié pour montrer son travail. Et donc il invitait des personnes et il mettait véritablement en scène son œuvre. Il allait jusqu'à recouvrir certaines sculptures et les découvrir juste au moment où la lumière venait heurter la surface d'un bronze ou d'un marbre et dématérialiser pratiquement la surface de la sculpture.
Et voici ses outils. Le mur en était couvert. Suspendus les uns contre les autres, ciseaux, poinçons, lime, tenaille, pince, tournevis, marteau, scie, de toutes les formes, de toutes les tailles. Au-dessous, sur la longue table de travail, une enclume, des rabots, et partout, partout de la poussière, venue se poser jour après jour, comme pour montrer le temps qui passe. Dora Valier.
Dans son testament, un an avant sa mort en 1957, il écrit
« Je lègue à l'État français, pour le Musée national d'art moderne, absolument tout ce que contiendront au jour de mon décès mes ateliers. Ce legs est fait à charge de l'État français de reconstituer, de préférence dans les locaux du Musée national d'art moderne, un atelier contenant mes œuvres, ébauches, établis, outils et meubles. »
L'ensemble est installé d'abord de manière partielle au Palais de Tokyo, puis intégralement sur la piazza du Centre Pompidou.
Féminin et masculin.
Dans l'art de Brancusi, la simplification des formes et la suppression des détails sont paradoxalement source d'ambiguïté, de double sens. Au Salon des Indépendants de 1920, l'aspect équivoque, jugé obscène, de sa sculpture Princesse X fait scandale. Sur ordre du préfet de police, elle est exclue définitivement, malgré la tribune de soutien pour l'indépendance de l'art parue dans la presse et signée par de nombreuses personnalités.
Gros émoi hier, au Salon des Indépendants. Quand il arriva pour le vernissage, le sculpteur Brancusi, qui avait exposé le buste très stylisé Princesse X, constata que son œuvre n'était plus à sa place. Il courut prévenir ses amis. On s'inquiéta. C'était, apprit-on alors, la police qui, émue des formes un peu bizarres qu'affectait le portrait de la princesse, l'avait fait supprimer pour que Monsieur le ministre ne fût pas choqué.
Brancusi proteste.
Ma statue, vous la comprenez, n'est-ce pas? C'est la femme, la synthèse même de la femme. C'est l'éternel féminin réduit en son essence. C'est tellement dommage de gâcher une belle matière en y creusant des petits trous pour les yeux, les cheveux, les oreilles. Et ma matière est si belle en ses lignes sinueuses qui brillent comme de l'or pur et qui résument en un seul archétype toutes les effigies féminines de la terre.
L'artiste commence à travailler dès 1909 à sa première ébauche, intitulée « Femme se regardant dans un miroir », un nu encore classique. Il ne retient que la courbe unissant les formes arrondies de la tête et de la poitrine pour aboutir à Princesse X. Le poli du bronze, miroir déformant, renforce la déstabilisation du regard. C'est malgré lui que s'impose cette double lecture symbolique de Princesse X qui fusionne dans une même forme le masculin et le féminin, évoquant le thème de l'androgyne déjà présent dans le baiser. Perturbant l'ordre symbolique, Princesse X fait écho à l'esprit contestataire de Dada, porté à la même époque à Paris par ses amis Man Ray, Tristan Tzara ou Marcel Duchamp, auteur de l'adage.
C'est le regardeur qui fait l'œuvre.
Des portraits.
Depuis ses débuts en Roumanie, Brancusi s'est fait connaître pour ses talents de portraitiste. En s'éloignant des apparences pour aller à l'essentiel, le sculpteur n'en délaisse pas moins la figure humaine, en particulier féminine. Les titres des sculptures conservent les noms des amis ou des compagnes qui l'inspirent. Margit Pogani, la baronne Frachon, Eileen Lane, Nancy Cunard, Agnès Meyer. Leur personnalité se fonde en un même visage stylisé, ovale et lisse, même si chacune se distingue par quelques signes élémentaires. Des yeux en amande, un chignon ou une mèche de cheveux. Une muse, ultime portrait de la baronne Frachon après la muse endormie, préfigure les recherches de Brancusi sur Mademoiselle Pogani, portrait d'une jeune Hongroise venue à Paris étudier la peinture. Comme Brancusi le dit à son modèle,
« Il me suffit de vous regarder vivre pour m'en souvenir. Baissez vos paupières, laissez-les se reposer sur vos yeux fermés. C'est assez pour m'inspirer. »
Insatisfait, il détruit ses études faites d'après modèle. Ce n'est qu'après le départ de Margit Pogani qu'il sculpte le portrait de mémoire. Brancusi revisite cette sculpture à 3 reprises, en marbre veiné ou en bronze poli. La dernière version, à la géométrie très affirmée, accentue le relief des sourcils et les vagues de la chevelure qui se déploient sur toute la hauteur du dos.
Lors de l'un de nos joyeux dîners dans l'atelier de Brancusi, en juillet 1929, à l'occasion d'une de mes nouvelles visites à Paris, j'ai pris conscience de l'hostilité qui régnait entre les sculpteurs modernistes et classiques. Despiau venait d'achever un buste de moi qui avait été acheté par le musée du Luxembourg. Je m'étais bien gardée de dire à mon ami Brancusi que j'avais permis à un élève de Rodin de réaliser un portrait de moi. Ignorant tout de cela, Mio m'a interpellée de l'autre bout de la table. « Je trouve superbe le buste que Despiau a fait de vous. » Brancusi m'a regardée comme si je venais de lui planter une dague en plein cœur. Il s'est muré dans un silence oppressant qui a plombé le reste de la soirée. Lorsque je lui ai souhaité bonne nuit, il m'a lancé un regard plein de mépris. « Je vous montrerai à quoi ressemble un véritable portrait de vous, » a-t-il murmuré d'un air triste. 2 ans plus tard, il avait fini la sculpture abstraite en marbre noir qu'il a baptisée « La reine pas dédaigneuse ». Son indignation à l'égard de la sculpture plus réaliste de Despiau l'avait conduit à produire un autre chef-d'œuvre, Agnès Meyer.
L'envol.
Comme enfant, j'ai toujours rêvé que je volais dans les arbres et dans le ciel. J'ai gardé la nostalgie de ce rêve et depuis 45 ans, je fais des oiseaux. Ce n'est pas l'oiseau que je veux exprimer, mais le don, l'envol, l'élan. Brancusi.
Avec plus de 30 variantes, en marbre, bronze et plâtre, le motif de l'oiseau occupe Brancusi pendant 3 décennies. L'envol symbolise pour l'artiste le rêve de l'homme échappant à sa condition terrestre, son ascension vers le spirituel. Initié en 1910, les maiastras à la gorge gonflée, au cou allongé et au bec grand ouvert font référence à un oiseau fabuleux des contes folkloriques roumains. Dans les années 1920, Brancusi simplifie la forme, l'amincit et l'étire verticalement. La base est réduite à son minimum, défiant les lois de l'équilibre. Dans son atelier, le sculpteur met en scène certains oiseaux devant des fonds de couleurs, tentures ou panneaux peints, comme un écrin pour sa sculpture.
André Avril.
Le thème de l'oiseau, c'est certainement le thème qu'il a le plus décliné tout au long de sa vie. 29 oiseaux qui vont être réalisés par Brancusi dans différents matériaux, essentiellement en bronze et en marbre. 2 matériaux qui lui permettent de polir à l'extrême la surface et dans ce polissage de rendre sensible l'énergie même de la lumière sur la sculpture. Avec même l'oiseau en bronze poli, il ira encore plus loin qu'avec le marbre, parce que le marbre, bien évidemment, c'est un matériau qui est très difficile à travailler. Très souvent, en tout cas, il a cassé, en fait, ces sculptures. C'est en allant à l'extrémité de la possibilité de la matière d'absorber la forme que Brancusi essaye de lui donner qu'il obtient, en fait, la tension la plus forte et l'élan ascensionnel qu'il recherche dans l'oiseau. Mais ce polissage a des limites. Il ne peut pas arriver à une finesse totale et extrême. Et c'est là que l'oiseau dans l'espace en bronze va lui permettre de polir de façon à avoir ce brillant de la sculpture et puis cette capacité du bronze à absorber et refléter la lumière. Et cette capacité aussi du bronze à absorber l'espace qui est alentour.
Je n'ai cherché pendant toute une vie que l'essence du vol. Le vol, quel bonheur. Brancusi.
Lisse et brute.
Une petite salle éclairée par un puits de lumière dans une galerie de New York renfermait une sorte de constellation de bronze poli, de bois, de marbre, d'onyx et d'albâtre. 9 sculptures accompagnées de quelques dessins et fresques. Surface scintillante, flamboyante, naturelle, tantôt chaude, tantôt fraîche, sans être brûlante ou froide, ni sèche ou humide, mais vivante. Ceux qui prenaient le temps de les connaître parvenaient à les entendre, les oiseaux, les poissons, les têtes et les torses taillés dans ces bronzes et ces marbres polis, ainsi que dans ce bois nu et sec. On y trouvait une géométrie des formes dans le bronze, le bois et la pierre. Chaque forme donnait l'impression d'avoir été éprouvée. Elles étaient régies par le matériau dont elles étaient constituées. Dorothy Dudley.
Dans nombre d'œuvres de Brancusi, les surfaces patiemment polies, pour effacer toute trace d'outils, contraste avec des matériaux bruts ou grossièrement taillés. Lisse et brute, ce jeu de matière est autant tactile que visuel, comme l'indique par son titre sa sculpture pour aveugle. Avec le travail en série, chaque sculpture est à la fois unique et multiple, souvent posée sur des socles superposés. Considérant que le socle fait partie de la sculpture, Brancusi remet en question le statut conventionnel de cet accessoire, traditionnellement utilisé pour surélever la sculpture et la distinguer de son environnement. Une pièce en bois brut, intitulée « chien de garde », peut aussi bien servir de socle à la sorcière, dont la silhouette naît d'une branche fourchue, qu'être présentée comme une sculpture indépendante. Refusant toute hiérarchie entre le haut et le bas, entre le banal et le noble, Brancusi ouvre la sculpture à l'espace environnant. Son nouveau-né d'œuf en bronze, posé sur 4 socles, montre le soin extrême qu'il accorde à la présentation de ses œuvres. Composé d'une pierre calcaire, d'un morceau de chêne massif troué, d'une croix en marbre blanc et d'un plateau en bronze poli, l'empilement de socles crée un rythme ascensionnel et dynamique. La cavité ronde du bois, de la même taille que la tête ovoïde du nouveau-né, peut s'apparenter à la matrice d'où elle serait issue. Le disque miroir forme le berceau sur lequel semble se pencher le monde alentour, accueillant la naissance de la sculpture.
Reflets et mouvements.
En polissant longuement le bronze, l'artiste obtient une surface brillante comme un miroir. De cette manière, la sculpture se projette au-delà d'elle-même et échappe à son strict contour. Les photographies et les films de l'artiste confirment sa fascination pour les éclats de lumière, parfois aveuglants. Brancusi a commencé à photographier ses œuvres dès les années 1910 pour un usage documentaire. Dans les années 1920, après sa rencontre avec Man Ray, qui lui prodigue ses conseils, la photographie devient essentielle. Brancusi ne s'intéresse pas à la perfection du tirage, mais plutôt aux possibilités d'expérimentation formelle du médium photographique. Man Ray raconte.
Ces photographies étaient floues, ou sur- ou sous-exposées, rayées, tachées. Voilà, dit-il, comme il fallait reproduire ses œuvres. Il avait peut-être raison. Un de ces oiseaux dorés avait été pris sous un rayon de soleil, de sorte qu'il irradiait comme s'il avait une auréole, ce qui donnait à cette œuvre un caractère explosif.
La photographie est pour Brancusi un support de réflexion, de métamorphose de la forme. Elle lui permet de révéler ce qui n'est pas perceptible au premier regard. Un grand nombre de tirages sont des arrêts sur image, provenant des photogrammes de ses films. Preuve que la sculpture de Brancusi est, comme il l'a définie, une forme en mouvement. Avec Leda, le sculpteur détourne le mythe antique, reprenant l'idée de la métamorphose de l'humain en animal.
Je ne pourrais jamais imaginer un homme transformé en cygne. Impossible. Mais une femme, si. Sans difficulté. La reconnaissez-vous sous les traits de cet oiseau? Elle est à genoux, penchée en arrière. Et ses points lumineux, en hauteur, étaient ses seins, sa tête. Mais ils ont été transformés en des formes propres aux oiseaux. Et au fil du mouvement de rotation, ils se transforment pour toujours en une vie nouvelle, en un rythme nouveau. Brancusi.
Quand l'artiste et mécène américaine Catherine Dreyer acquiert l'original en marbre, Brancusi réalise un tirage en bronze, suivant sa pratique qui consiste à conserver dans l'atelier un double de chacune de ses créations. Quelques années plus tard, il installe sa Leda sur un disque de métal poli, posé sur un roulement à billes, puis ajoute un petit moteur de gramophone permettant de faire tourner lentement l'œuvre sur elle-même. Le film qu'il tourne avec sa caméra montre cette nouvelle métamorphose. Les reflets multiples effacent et recréent indéfiniment son image, dédoublée par le disque au polymiroir qui figure la surface lisse de l'eau.
L'animal.
Dans les années 1930 et 1940, Brancusi emprunte nombre de ses motifs au monde de la nature. La thématique de l'animal marque une évolution vers des formes plus obliques ou horizontales. Au sein de ce bestiaire, deux groupes se distinguent. Les volatiles, coqs, cygnes, oiseaux, et les animaux aquatiques, poissons, phoques, tortues. Passant de la pierre ou du bois au plâtre, et du plâtre au bronze, avec de légères variantes, Brancusi invente une figuration symbolique, exprimant l'essence de l'animal hors de tout caractère singulier. Il explique. Quand vous voyez un poisson, vous ne pensez pas à ses écailles, vous pensez à la vitesse de son mouvement, à son corps étincelant et flottant vu à travers l'eau. Eh bien, voilà ce que j'ai voulu exprimer. Si j'avais rendu ses nageoires, ses yeux et ses écailles, j'aurais arrêté son mouvement et j'aurais obtenu un simple échantillon de la réalité. Moi, j'ai voulu saisir l'étincelle de son esprit. Le corps massif et ondoyant du phoque est ainsi réduit à une forme synthétique. Le marbre poli évoque son poil luisant. Le sculpteur cherche aussi à traduire la puissance et l'élan qui se dégagent du corps massif de l'animal.
André Avril.
Pour moi, cette sculpture, elle rend sensible et même visible un certain élan vital de cet animal, qui est quand même un animal qui n'est pas très très adroit, qui est lourd, qui se traîne un peu quand il est sur terre, mais qui, lorsqu'il est dans l'eau, est d'une grâce et d'une élégance assez incroyable. Brancusi a su restituer cette sorte de tension qui s'opère entre ce passage de la terre à l'eau. Ce passage d'un état de lourdeur à un état de légèreté, un état de fluidité. Et il l'obtient très directement dans la relation qu'il va créer entre les matériaux et les formes. Le phoque a une base, qui est une base en pierre, qui est dense, qui est lourde. On voit très bien, par exemple, que la lumière est totalement absorbée dans la pierre, qui a une forme arrondie, et qui vient accueillir le marbre bleu du phoque. Je trouve très très beau cette tension qui s'opère entre la lourdeur de la pierre, sa densité, et puis cette apparence de légèreté sur le marbre bleu. Et quand on regarde cette sculpture, on se rend compte que les veines du marbre partent de la queue de l'animal et se prolongent jusqu'à la tête de l'animal, comme une sorte d'ondulation qui renverrait un mouvement très fluide à la surface de la fourrure du coq. C'est-à-dire qu'il renverrait en réalité au mouvement de l'eau qui s'écoule à la surface du phoque. Et c'est une sorte de mouvement perpétuel qui se voit dans l'ondulation des veines du marbre, mais qui se voit aussi dans les mouvements de la lumière à la surface du marbre.
Dorothy Dudley écrit
« Ceux qui appellent abstraites ces sculptures ne les ont pas senties, n'ont pas vu à quel point leurs bords sont vibrants, qu'une pulsation naît au sein de chacune d'elles, qu'il s'agit de projets et d'organismes vivants, et qu'elles donnent l'impression d'avoir été faites par un ami, non pas par un étranger, mais par quelqu'un qui est à l'intérieur des choses, qui vit au niveau des pierres, des arbres, des humains, des animaux et des plantes, et non au-dessus ou loin d'eux. » Dorothy Dudley.
Le socle du ciel.
La nature engendre des plantes qui poussent de terre droite et puissante. Voici ma colonne. Ses formes sont les mêmes du sol jusqu'en haut. Elle n'a pas besoin de piédestal ou de socle pour la porter. Mon ami m'a dit un jour qu'il n'avait jamais pris conscience de la grande beauté de son jardin avant d'y avoir placé ma colonne. Elle lui avait ouvert les yeux. C'est pour cela que les artistes sont là, pour révéler la beauté.
Chez Brancusi, le rapport à la nature se double d'une conscience très forte de l'espace de l'œuvre. Très tôt, il nourrit l'espoir de réaliser des œuvres monumentales se déployant en plein air. Une première occasion s'offre à lui en 1926, lorsqu'il taille une colonne de plus de 7 mètres dans un peuplier trouvé dans le jardin de son ami, le photographe américain Edward Steichen, à Voulengis. À l'origine, la colonne part de la réflexion de Brancusi sur un modeste socle de bois. L'artiste en répète le module verticalement pour créer une œuvre radicale, destinée à soutenir l'arc du firmament, comme il le dit. Sa forme évoque les piliers funéraires du sud de la Roumanie. C'est d'ailleurs dans son pays natal, à Târgu Jiu, qu'il mène à bien son unique projet monumental, créé en 1937-1938, en hommage aux héros de la Première Guerre mondiale.
Dans le folklore roumain, la colonne du ciel représente une croyance archaïque, pré-chrétienne, mais qui a été assez vite christianisée. Brancusi aura sans doute entendu parler de la colonne du ciel dans son village natal ou dans la bergerie des Carpates où il a fait son apprentissage de pâtre. De l'ancien symbolisme de la colonne du ciel, Brancusi n'a retenu que l'élément central, l'ascension en tant que transcendance de la condition humaine. Mircea Eliade.
Érigée en fonte métallisée à plus de 30 mètres de haut, la colonne sans fin, trait d'union entre la terre et le ciel, marque l'aboutissement de sa création. Photographiée et filmée à toute heure de la journée et sous tous les angles par Brancusi, elle paraît véritablement sans fin, donnant l'illusion de sa démultiplication dans l'espace. Sur un axe d'1,5 km, traversant la ville de Târgu Jiu, Brancusi place deux autres éléments symboliques, la table du silence et la porte du baiser. Cette dernière montre la reprise, la stylisation et le développement architectural du motif du baiser, que Brancusi ne cessera de reprendre tout au long de sa vie. Dans la colonne du baiser, conçue pour un projet de temple en Inde qui n'aboutira pas, le couple se fond dans deux piles abstraites. Leurs yeux accolés s'unissent dans un même cercle. Avec la porte du baiser, la sculpture se mue en arc de triomphe, ponctuée d'une litanie de 8 cercles et dominée par une frise de 40 couples enlacés. Le motif du baiser, devenu signature de l'artiste, se développe, isolé ou en frise, sur toutes sortes de supports. Motif infini, il est à la fois le symbole de l'amour qui transcende l'individu et la mort, la métaphore de l'artiste face à la matière et l'image sans cesse répétée de la quête à la fois plastique et spirituelle de Brancusi.
Ma patrie, ma famille, c'est la terre qui tourne. La brise du vent, les nuages qui passent, l'eau qui verse, le feu qui chauffe, herbe verte, herbe sèche, de la boue, de la neige.
Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt.